Marion Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. La violence à l'égard des femmes et des filles constitue l'une des violations des droits humains les plus répandues, les plus persistantes et les plus dévastatrices dans le monde. C'est pour lutter contre ce fléau que l'Union pour la Méditerranée, qui regroupe l'ensemble des pays du pourtour méditerranéen, organise divers programmes pour parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser les femmes et les filles, notamment sur le plan juridique, afin de lutter contre des discriminations qui sont souvent la conséquence d'attitudes patriarcales et de normes sociales anciennes. Et puisque ce 25 novembre marque la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, Orient Hebdo donne la parole à la ministre tunisienne de la famille, Nazia Lahabidi, sur les efforts de son pays en faveur des femmes, ainsi qu'à une députée saoudienne et une universitaire iranienne. Madame la ministre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ministre des femmes, de la famille et...
De l'enfance et des seniors. Donc c'est le ministère de la vie.
Donc aujourd'hui vous êtes très engagée pour que ce qui est dans la constitution tunisienne et notamment l'égalité homme-femme se traduise dans les faits. Quelles sont les avancées précisément que vous avez pu obtenir en tant que ministre ces derniers mois?
Quand j'ai repris... mes activités au sein du ministère, je suis déjà venue avec une vision. Cette vision, je l'ai traduite en stratégie et en activité. Et on a eu vraiment beaucoup de choses, beaucoup de travail, beaucoup d'acquis. Pour commencer, j'ai fait une retraite, j'ai organisé une retraite pour les membres du gouvernement. Le chef du gouvernement était présent et donc on a expliqué, on a eu une formation sur le genre et l'intégration du genre dans la planification. Et ensuite, il y a eu quand même l'adoption de la loi de lutte contre la violence faite aux femmes. Et cette loi, que je considère une fierté non seulement pour la Tunisie, qui est classée 19e dans le monde, mais première dans le monde, puisque cette loi a été transcrite en braille, en trois langues. Donc cette loi n'est plus seulement une loi tunisienne, mais elle est devenue une loi, une propriété de toute l'humanité, de toutes les personnes qui veulent vraiment vivre avec dignité et respect de soi. On a également adopté le plan national de la résolution 1325, donc, qui a duré assez longtemps. Donc c'est une fierté pour nous. On est le quatrième pays arabe. Et il y a aussi d'autres programmes, comme la constitution du Conseil des Pères. Ce Conseil des Pères est présidé par le chef du gouvernement. Il est constitué par les cadres femmes et hommes des différents ministères et également par la société civile. Il s'agit d'un conseil pour l'égalité entre hommes et femmes dans les postes de prise de décision. Et donc, le plan national a été adopté lors d'un conseil des ministres et donc c'est devenu une obligation pour tous les ministères, toutes les institutions, d'appliquer l'égalité de chance entre les hommes et les femmes. En plus de cela, nous avons créé un prix qui sera décerné à la meilleure institution qui réalise l'égalité entre hommes et femmes. Ça, c'est juste un petit résumé. Ma fierté aussi, c'est d'avoir réalisé un projet qui s'appelle RAIDA. Ce projet, c'est une ligne de crédit sans intérêt dédiée aux femmes. Et donc, on a réalisé plus de 3000 projets en un an et demi dans des régions démunies, dans des régions où les femmes diplômées du supérieur étaient presque désespérées. Et quand je vois que ces femmes qui ont démarré avec très peu de moyens et qu'aujourd'hui, elles ont un capital quand même assez important, je trouve que c'est un succès assez important. Et pour les personnes ou les seniors, la Tunisie vient de mettre en place le premier code de protection des seniors. Et donc, c'est le premier code au monde. Et donc c'est une fierté également. Bon, à côté de cela, il y a beaucoup d'autres choses qui sont réalisées pour l'enfance. Et bon, le temps peut-être ne permet pas de tout dire. Nous sommes sûrs de réaliser beaucoup de choses. Et je dis que les Tunisiens, vous savez, nous sommes comme le roseau. On se plie, mais quand on se relève plus fort, plus déterminé. Et nous sommes déterminés à faire de notre pays un joyau de la Méditerranée.
Alors, outre débat qui agite non seulement la Tunisie, mais aussi l'ensemble de la région, c'est le débat sur l'héritage et l'égalité face à l'héritage. Est-ce qu'il y a des avancées à attendre en Tunisie ?
Vous savez, cette question qui a soulevé un grand débat. Moi, je trouve que c'est quand même un signe de bonne santé que la société tunisienne réfléchit, que la société tunisienne n'est pas une société fermée. Donc, le débat est très important. On attend, bien sûr, que les choses se calment, que les esprits avancent. Faut-il rappeler que déjà en 1991, il y a eu la loi pour l'éducation et tous les manuels scolaires ont été épurés des images stéréotypé. Donc, on travaille beaucoup sur les changements de mentalité. Et je pense que ce débat va aboutir vers quelque chose qui fera des droits humains encore d'autres acquis. Et je vois que dans la société tunisienne, il y a des familles qui déjà partagent leurs biens entre leurs enfants de la même manière. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème. C'est une question fondamentale, un débat. Ce qui me plaît dans tout ça, c'est ce débat de société. Et donc, une société qui vit, qui s'épanouit, qui discute calmement, mais qui va aboutir vers quelque chose de beau, certainement.
Autre avancée, c'est le fait qu'un musulman puisse épouser quelqu'un qui n'est pas musulman. Ça aussi, c'est une sacrée avancée.
C'est une avancée, mais pas entièrement, puisque depuis très longtemps, les Tunisiennes se mariaient avec des non-musulmans. Et en 1973, il y a eu une circulaire qui interdisait le mariage entre non-musulmans et avec une musulmane. Donc, c'est une circulaire qui a été vite éliminée, enfin, abrogée. Et vous savez, moi, je trouve que l'esprit, c'était de ne pas vivre dans l'hypocrisie. Quand on vit dans l'hypocrisie, c'est pas beau, c'est pas bon, c'est pas agréable, c'est pas. Le bonheur ne se bâtit pas sur l'hypocrisie. Et donc, nous, ce qui nous intéresse en Tunisie, c'est vraiment donner la chance, le bien-être à tout le monde. Quand on fait un choix, on doit le faire en toute conscience. Et on le fait avec beaucoup de bonheur et on assume ses responsabilités. Et puis, vous savez, personne ne choisit sa chance. Moi, je crois qu'il y a une providence, un maktoub, comme on le dit en arabe. Et donc, si on croit à ce maktoub, pourquoi ne pas laisser les gens choisir et ils assument leurs responsabilités.
Merci, Madame la Ministre.
Je vous en prie.
Nazia Labidi, ministre tunisienne de la femme, de la famille, de l'enfance et des seniors. On l'entend donc, un pays comme la Tunisie, déjà progressiste dans ses textes, et notamment la constitution de 1959 ainsi que celle de 2014, multiplie les efforts en faveur de l'égalité entre tous ses citoyens, quel que soit leur âge, leur sexe ou leur origine. Ailleurs, c'est parfois plus compliqué en raison de traditions très ancrées dans la vie sociale. Pourtant, un pays comme l'Arabie Saoudite tente également quelques percées sur le plan des droits du citoyen, notamment pour les femmes, ainsi que nous le confirme Oda El Aissi, députée au Majlis, le Parlement de Riyad.
Tout à fait, que cela soit homme, que cela soit femme, que cela soit un citoyen, c'est-à-dire une personne qui est née saoudien, une personne qui vient, on a nos droits.
Et vous-même en tant que députée, donc dans la sphère politique, vous pouvez avoir une action en tant que députée femme ?
Oui, bien sûr, tout à fait. On a les mêmes droits que nos collègues, on est payé la même chose, on parle comme ils parlent, tout à fait. Je crois qu'il faut souligner aussi ce fait que c'était nos collègues hommes qui, ça c'est mon deuxième mandat, donc au premier mandat, quand on était complètement perdus, c'était eux qui nous poussaient, c'était eux qui nous encourageaient. Et je trouve qu'il y a une parité très importante vis-à-vis ce qu'on offre à la Choura, du côté direction, du côté opinion.
Il n'y a pas des freins du côté de vos collègues hommes ?
Très rare, mais la Choura représente la société. Et comme dans toute société, il n'y a pas un idéal, il n'y a pas un uniforme. Nous sommes tous représentants d'un certain milieu dans la société saoudienne. Il y a des gens qui encouragent, il y aura un ou deux qui seront contre, mais c'est tout à fait normal.
La place des femmes aujourd'hui en Arabie Saoudite est-elle en train de changer ? Quelle est-elle ?
Elle change et va continuer à changer. Elle a commencé à changer bien avant ma génération. Et c'est un développement continu, c'est une évolution continue. Si les traditions la forcer de rester à la maison à une époque, aujourd'hui n'est plus à la maison, elle veut une carrière, elle veut une éducation. Et j'ai fait 24 ans à l'université Roi Saoud, j'ai enseigné le français et l'anglais là-bas. J'étais directrice de la faculté de langue et de traduction pendant 14 ans. Et je vous dis, j'ai vu une évolution extraordinaire. Quand je compare ce que j'ai connu il y a 5 ans à ce qu'il y a aujourd'hui en tant qu'étudiante, c'est énorme, c'est énorme.
Vous voulez dire qu'aujourd'hui, les jeunes filles sont formées à l'université ?
Non, mais bien sûr. Vous comprenez, c'est ça, ça fait partie des médias. Elles n'ont pas le droit d'être éduquées, n'ont pas le droit d'aller à l'université. Non, non. Si à mon âge, j'ai une éducation, vous comprenez, et bien avant ça, il y avait les écoles. C'est vrai que les écoles n'ont commencé en Arabie Saoudite, dans le secteur gouvernemental, qu'en 1962. Mais il y avait déjà deux écoles ouvertes par la femme du roi Faisal à Jeddah. Et c'était dans le privé, donc il y avait des écoles pour les filles, mais il n'y en avait que deux. Et en 1962, le roi avait ouvert les portes pour les écoles du côté gouvernemental. Il y avait plein de familles qui ont refusé au début, c'était vraiment l'opposition complète. Mais ce qui était intéressant à l'époque, c'est que le roi Faisal avait dit, pour les familles qui veulent mettre leurs filles à l'école, ils le font, s'ils ne le veulent pas, ils ne le font pas. Et peu à peu, les choses ont beaucoup changé et on cherche maintenant les meilleures universités. Et les bourses ont poussé les filles aussi à faire l'éducation à l'étranger.
Et sur le plan des mœurs, est-ce que les femmes ont un peu plus de liberté ? Est-ce qu'elles peuvent travailler ? Est-ce qu'elles peuvent conduire ?
Elles peuvent travailler. Moi, ça fait déjà 30 ans que je travaille, donc oui, elles peuvent travailler. Il y a une richesse qui est inconnue en Arabie Saoudite, une richesse culturelle, une richesse qui vraiment représente ce qui est la femme. Il y a toujours eu des difficultés, mais ce ne sont pas des difficultés religieuses, ce sont des difficultés de tradition. Et on ne peut pas imposer ou changer ces traditions à un pays qui, pour si longtemps, a vécu, et il faut le dire, avant le pétrole, dans une pauvreté extrême. Et tout d'un coup, avec cette modernité, avec le fait qu'on voyage, avec le fait qu'il y a l'éducation, on demande plus. Les jeunes filles demandent plus.
Qu'est-ce qui pourrait arrêter ce changement en faveur des femmes, en faveur des jeunes, en faveur d'une certaine modernité ?
Je ne crois pas que ça peut être arrêté, parce que c'est une évolution. On n'arrête pas l'évolution. On ne stagne pas.
Merci.
Merci à vous.
La députée saoudienne Hoda El-Aissi. Que se passe-t-il de l'autre côté du golfe arabo-persique en Iran ? Depuis le début de l'année, un mouvement féministe se développe, celui des foulards blancs avec cette jeune femme, cheveux au vent, son foulard tenu au bout d'un bâton et dont la vidéo a fait le tour du monde et des réseaux sociaux. L'universitaire Azadeh Kian considère que cette image est emblématique des revendications des femmes en Iran aujourd'hui.
Dans des grandes villes certainement, puisqu'il y a de plus en plus de femmes, y compris et surtout des jeunes femmes, qui refusent de respecter le voile, le port du voile obligatoire. Il ne faut pas oublier qu'il y a une loi en Iran qui oblige les femmes à se voiler. Mais c'est un mouvement qui a commencé dès le début de la révolution, puisque des pans entiers des femmes issues des classes moyennes qui étaient actives, qui travaillaient notamment dans l'administration à l'époque, je parle de 79-80, a refusé de porter le voile et donc a perdu son emploi, a été limogé. Aujourd'hui, donc on constate que ce sont les jeunes filles qui continue son mouvement de refus ça a commencé en fait dans les années surtout 1990 après la sortie de la guerre Iran-Irak où la société iranienne, la société civile a commencé à faire entendre ses revendications et beaucoup de femmes se sont réunies alors à la fois les femmes musulmanes et les femmes laïques ensemble contre les lois islamique en vigueur et aussi contre le port obligatoire du voile. Et donc ce mouvement a continué, a eu des formes différentes et depuis maintenant l'année dernière, il y a un mouvement qui s'appelle la liberté furtive et par la suite, il a été demandé aux femmes tous les mercredis de porter un foulard blanc en signe de protestation contre le port obligatoire du voile. Et donc, la jeune femme qu'on voit sur la photo, c'est un mercredi, un jour avant le début des manifestations à Mashhad, qui effectivement portait le foulard blanc, qui l'a enlevé et c'est devenu, si vous voulez, l'emblème qu'on voit dans les médias occidentaux.
Peut-on dire qu'il y a aujourd'hui en Iran deux formes de féminisme, l'un laïque, l'autre religieux ?
Si vous voulez, beaucoup de ces féministes islamiques des années 90-2000 sont devenues elles-mêmes laïcisées. Pourquoi ? Parce qu'elles ont déjà beaucoup collaboré avec des féministes laïques. Elles ont aussi beaucoup fait appel aux conventions et chartes internationales des droits des femmes. Et donc, il y a eu un processus qu'on appelle hybridation entre différents types de femmes, et y compris leur connaissance de ce qui se passe à l'échelle internationale, eh bien, a été effectivement, a participé à ce changement, à cette prise de conscience importante. Mais aujourd'hui, nous avons encore des femmes qui ne se disent même pas féministes, puisque elles pensent que le féminisme est un phénomène occidental, mais qui sont religieuses. Par exemple, Madame Azam Talerani est l'une d'elles que j'ai beaucoup interviewée dans le temps, et qui est toujours au devant de la scène contestataire, qui n'arrête pas de défier les institutions conservatrices du pays, et depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, à chaque élection présidentielle, elle va porter sa candidature pour défier justement l'institution conservatrice, le Conseil des gardiens, qui habilite tous les candidats aux élections. Donc on constate que ces féministes-là, qui ne se disent pas féministes mais qui sont musulmanes, d'ailleurs elle est la fille d'Ayatollah, elle aussi continue à militer dans ce pays. Donc nous avons plusieurs types de féministes en Iran actuellement.
Ce qui est une tradition, puisque le féminisme finalement est né en Iran il y a déjà plus d'un siècle.
Absolument, 1905. Il y a une partie des femmes iraniennes, bon, qui étaient certes les femmes urbaines, issues des classes moyennes et aisées, liées à des constitutionnalistes qui se sont joints au mouvement constitutionnel de 1906 en Iran. Elles ont fondé des associations secrètes avec des revendications à la fois politiques, sociales, économiques, et elles ont participé activement à la révolution donc constitutionnelle. Et il y a plusieurs dizaines d'entre elles qui ont été d'ailleurs tuées. Il y en a parmi elles qui ont même pris des armes. Donc effectivement, puis après, elles ont continué à créer des associations de femmes, des journaux et des écoles pour les filles. Donc effectivement, il y a cette tradition très importante de ce mouvement féminin ou féministe en Iran, qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette mémoire qui s'est réactivée, y compris au sein des féministes musulmanes ou islamiques, qui effectivement regardent leur passé et en sont très fiers.
Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une place pour des féministes en Iran, qu'elles soient d'ailleurs laïques ou islamiques ?
Une place très limitée, je dirais, même si l'une des deux vice-présidentes actuellement, Massoum Ebtekar, elle-même était une féministe islamique avant d'être nommée en 1997 la vice-présidente, puisqu'elle a été la vice-présidente président Khatami, puis après Soleimani, mais elle était rédactrice en chef de la revue Farzaneh, qui était une revue féministe, effectivement, à l'époque, mais islamique. Et puis Madame Mollaverdi, Shaidort Mollaverdi, qui, elle, est une féministe, et tout le monde le sait, elle le dit. Donc, au niveau du gouvernement Rouhani, vous avez effectivement deux, trois féministes. Au niveau des députés au Parlement, des députés réformistes au Parlement, vous en avez plusieurs qui sont en faveur des droits des femmes et font tout ce qu'elles peuvent pour changer les lois discriminatoires en Iran. Mais au niveau de la liberté de parole ou d'association en ce qui concerne la société civile, il y a beaucoup d'ONG de femmes, mais très peu de féministes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont réprimées, ces ONG-là. Elles sont réprimées, elles sont fermées. Ceci étant dit, elles sont toujours là. Elles se réunissent souvent dans des lieux privés, pas publics, parce qu'elles n'ont pas le droit de manifester ni de se réunir dans des lieux publics. Ce que je veux dire par là, c'est que la société iranienne reste quand même une société civile assez dynamique, une société civile qui existe, mais de façon parfois non organisée.
L'universitaire Azadeh Kian et le mouvement féministe en Iran. Orient Hebdo est une émission de RFI réalisée par Mathias Golshani. que vous pouvez réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Vous pouvez également la podcaster sur notre application Pure Radio. À samedi prochain, passez une bonne semaine à l'écoute de la Radio Mondiale. Tout de suite, le journal.